Peut-être que je vais me mettre, je vais faire comme Anne.
Bon, merci, chers collègues. Je voudrais profiter de l'occasion pour une fois encore remercier Eric Usgom et Anne Mayor et tous les autres organisateurs pour m'avoir invité une seconde fois en terre suisse, que j'aime bien et que j'adore beaucoup, donc pour parler une seconde fois encore des questions de pillage, des questions de gestion de patrimoine qui devient aujourd'hui un peu partout en Afrique un casse-tête. Parce que, en fait, c'est une équation qui, en réalité, doit troubler pratiquement la conscience de tous les spécialistes de ce domaine. Donc, mon intervention va être juste sur quelques exemples, quelques détails, aspects particuliers au patrimoine nigérien, notamment archéologique. Donc, cette intervention intitulée « Pillage et gestion du patrimoine culturel au Niger ». Dans un premier temps, vous avez un peu la situation géographique et administrative de ce pays, en Afrique de l'Ouest. Donc, en introduction, on peut peut-être dire que, dans un premier temps, le point de départ par rapport à une problématique de ce genre, c'est procéder plutôt à une conscientisation de la population et amener plutôt cette population à s'intéresser, à se familiariser à son patrimoine et à savoir quel intérêt accorder à ce patrimoine. Donc c'est ça l'important à notre sens, et surtout amener cette population à être fière de ce patrimoine et surtout encore à s'investir dans sa promotion. Malheureusement, le cas du Niger, ce patrimoine est souvent pillé par différentes catégories de personnes. Donc, à l'instar de tous les pays sud du Niger, le Niger connaît d'énormes difficultés pour protéger du pillage, de la dégradation naturelle en fait, et accidentelle, une bonne partie de son patrimoine culturel, notamment archéologique. La situation nationale se caractérise par un pillage de sites et un trafic des objets archéologiques sans précédent dans l'histoire du Niger. La détérioration de la situation est telle que notre pays est actuellement la plaque tournante du trafic illicite des biens culturels de toute la région ouest africaine. Mais pour mieux élucider la problématique du pillage et de la gestion des biens culturels du Niger, il convient surtout de passer en revue un peu la réglementation et de voir, au fond, les institutions chargées de la gestion de ce patrimoine. Ce qui nous amène donc à parler un peu du pillage des biens culturels. Au Niger, le pillage et la destruction des sites archéologiques affectent essentiellement le nord et le sud-ouest du pays, à des degrés divers suivant le genre de site. Dans le nord, ce sont surtout les sites paléontologiques et préhistoriques qui sont menacés. Complètement pillés par ramassage de surface des chasseurs de pièces lithiques ou même des chercheurs isolés qui se comportent comme des pilleurs clandestins. Dans le sud-ouest, la situation est tout à fait contraire. Les sites préhistoriques moins spectaculaires, parce qu'on en trouve rarement, que ceux du nord, passent inaperçus et ce sont les sites historiques, notamment les sites à statuettes votives et surtout funéraires en terre cuite et en pierre qui soulèvent l'engouement des pilleurs et des trafiquants. Mais là, il faut préciser que c'est surtout l'élément déclencheur, c'est surtout l'exposition vallée du Niger, donc l'exposition et l'itinérance de l'exposition internationale vallée du Niger qui a démarré en 1993 à Paris, et pour finir en 1999 au Niger, qui a surtout lancé un peu, suscité l'engouement des pilleurs par rapport à ce trésor. Donc, les amateurs et trafiquants d'art internationaux, et notamment occidentaux, sur les nouvelles découvertes comme l'art funéraire en terre cuite et en pierre des systèmes de sites de Boura en République du Niger. Boura est donc le site éponyme en fait de cette statuaire en terre cuite dans l'ouest, un peu en amont de Niamey, à 180 km. Voilà un peu comment ça se présente. Ça, c'était les premières fouilles des années 83, les premières années de la découverte de ce site, et d'ailleurs qui a été scientifiquement fouillé, qui a donné un certain nombre de résultats positifs que certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de voir lors de cette exposition dont je faisais cas tantôt. Le pillage s'est trouvé ici accompagné de destructions frénétiques et systématiques des sites, il est vrai par des populations des plus paupérisées du monde et à la limite extrême de la survie quotidienne. Dans le sud-ouest toujours, les sites sont détruits, voire de 50 à 90%, suivant que l'opération de creusement anarchique s'est avérée prometteuse ou non dès ses débuts. Là, le cas express de la zone, de la région de Boura, on a trouvé des agriculteurs, des cultivateurs, en début de saison hivernale, qui ont préféré plutôt détruire leur champ de mil que de semer le mil. Donc, et c'est à partir de là que la fouille anarchique et sauvage a commencé. À coup de gourdin, de hache, ces cultivateurs se sont rués justement dans leur champ de mil pour chercher la statuette la plus présentable et la plus vendable. Et tout ça, c'était l'élément, l'exposition Vallée du Niger qui a montré justement ces vestiges aux yeux du monde et qui a donc suscité un certain intérêt au niveau de ces populations-là. Le trafic illicite des biens culturels d'une manière générale a malheureusement pris aujourd'hui des proportions inquiétantes. L'exemple le plus frappant est le coup dur qu'a connu le patrimoine nigérien. Plus de 5000 objets préhistoriques provenant du pillage de sites archéologiques du Sahara nigérien avaient été saisis entre mars et janvier 2005 par les douaniers de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Plus précisément, ce sont quelques 5500 pointes de flèches et 90 pièces bifaciales du néolithique saharien. Voilà un peu, ça c'est une partie de la cargaison qui était destiné au marché des antiquaires à Bruxelles. Actuellement, j'ai 5 cantines, 3 cartons au niveau du département d'archéologie qui ont été saisis. Donc, c'est suite à une commission rogatoire que l'État du Niger a demandé auprès de l'État français que ces pièces ont été finalement remises au Niger. Et donc, nous, en tant qu'Institut de recherche en sciences humaines, en collaboration avec le Musée national Boubouhama du Niger, nous avons jugé utile de prendre pour exploitation sommaire toute cette cargaison en mettant des étudiants là-dessus. Donc, je peux vous dire, entre parenthèses, que la situation a pris une autre envergure, parce que le trafiquant en question, qui a été appréhendé, n'a pas arrêté de nous harceler. Moi, personnellement, en tant que responsable de ce département, j'ai été assiégé à 3 reprises pour que je puisse remettre ces cantines-là parce que ça n'appartient pas à l'État du Niger. Je lui ai rétorqué, j'ai dit, mais écoutez, monsieur, moi, je suis une administration. Et voilà la procédure qui nous a permis d'avoir cette cargaison. Donc, je n'ai plus rien à vous rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Allez-y, vous adressez à qui de droit. Et qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Parce que, profitant du changement de régime politique au Niger, donc les affinités, parents, amis et connaissances, il est passé jusqu'au haut niveau, au niveau de la présidence, pour se plaindre en disant que, quelque part, il y a une institution nationale qui lui a arraché cette cargaison qui lui appartenait. Imaginez-vous. Donc, moi, j'ai reçu à 2 reprises des coups de fil des hommes, des hautes autorités qui m'ont dit mais de venir m'expliquer. J'ai dit non, moi, je n'ai pas à me déplacer. et je n'ai pas de compte à vous rendre. J'ai une hiérarchie. Suivez la procédure et on verra. Et depuis, j'ai eu la paix. Donc, vous voyez un peu, on pourra peut-être en discuter dans le débat. C'est un gros scandale qui doit donc interpeller la conscience de tout un chacun. Sinon, comment comprendre qu'un individu, qui plus est un étranger, puisse passer impunément à la fois un contrôle douanier et policier avec 23,4 kilos d'objets volés, sans qu'aucun agent de l'aéroport ne se soit soucié ni de son comportement, ni de sa cargaison. Là, voilà une pièce aussi extraordinaire, le cavalier de Boura, qui a servi donc de mascotte à l'exposition internationale Valeur du Niger, et qui est en valeur marchande et scientifique hors de prix, et qui a failli être donné en cadeau à un chef d'État étranger. Et là encore, le scandale, nous étions sur le terrain, sur un terrain, un chantier de fouilles, quand le président de l'époque a diligenté son ministre conseiller à la présidence via notre ministre de l'enseignement supérieur pour que nous descendions illico presto sur Niamey, parce qu'on était à 180 km de Niamey, et la veille de son départ sur Paris, et uniquement pour cette pièce, parce qu'il fallait qu'on lui donne cette pièce-là qui devrait en faire cadeau au président Chirac. Voilà. Donc, allez-y voir quelle a été notre réaction, le tapage, etc., etc. C'est toute une longue histoire. Donc, certains responsables politiques au plus haut niveau se sont même autorisés à découper une paroi rocheuse portant des gravures rupestres pour en faire cadeau à une association étrangère. Procéder à une distribution gratuite de statues Janus anthropomorphes en terre cuite saisies par la cellule d'intervention et de recherche de la douane. Là, pour ce qui est de la paroi rocheuse, c'était en 92, nous étions dans une prospection archéologique dans le nord du Niger, plus précisément dans le Jado, quand on a rencontré une délégation officielle qui sillonnait, donc qui partait à un poste militaire un peu plus au nord, et donc qui s'était arrêté expressément sous la bannière des touristes, etc., et qui se sont adonnés à arracher, parce qu'en fait, il y a un pan, une petite paroi, qui portait des gazelles. Donc, ils ont découpé, complètement arraché, parce qu'à peine ils avaient quitté des lieux, quand nous étions venus, ils l'ont emporté. Et on ne sait plus l'histoire de cette paroi rocheuse. Quant aux statuettes Janus, c'était des statuettes qui ont été saisies par la brigade d'intervention de la douane, et l'Institut de recherche en sciences humaines, à travers son département d'archéologie, avait été saisi pour l'expertise, et en attendant maintenant la procédure administrative normale pour entrer en possession. Mais entre-temps, vous verrez, c'est ce qui suit. Le département d'archéologie donc, avait été saisi par la dite cellule au sujet des 25 statuettes en terre cuite provenant de la fouille clandestine, et avait donc immédiatement dépêché une équipe dirigée par un archéologue pour procéder sur place à l'identification de ces objets en attendant la procédure administrative qui permettrait aux services techniques à la matière l'acquisition de ces objets. Nous étions dans cette attente lorsque l'information concernant le cadeau fait par le président de la République à une délégation d'officiers étrangers venus lui rendre les hommages nous était parvenue. Que dire de plus si ce n'est informer le recteur de l'université, nos collègues de l'Association Ouest Africaine d'Archéologie, l'UNESCO et le Conseil International des Musées, ICOM, sur ce qui venait de nous arriver. En vérité, au regard de tous ces faits, l'on est en droit de se poser quelques questions. Quel intérêt le Niger accorde-t-il à son patrimoine culturel? Y a-t-il des services, des lois et bien entendu des ressources financières pour la gestion du patrimoine culturel nigérien? Ce patrimoine est-il géré? Est-il mal géré? Qu'est-ce qui justifie la poursuite du pillage des biens culturels au Niger? Nous pouvons sans aucun doute affirmer oui aux deux premières questions. En réalité, le Niger accorde beaucoup d'importance à son patrimoine culturel. C'est pourquoi les différents gouvernements ont favorisé la mise en place de services et infrastructures pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine. En effet, quatre ministères, tourisme, mines, culture, recherche scientifique et leur démembrement sont directement concernés par la gestion du patrimoine culturel nigérien. Toutefois, il manque une réelle coordination des activités de ces différents ministères dans la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine culturel. C'est cet état de fait qui constitue une réponse évidente à notre troisième question. Cette mauvaise gestion est à nos yeux une des raisons qui justifie la persistance du pillage du patrimoine culturel au Niger. À cela, il faut ajouter bien entendu l'ignorance des populations et des pouvoirs publics, la pauvreté, l'appât du gain, la puissance financière des réseaux d'antiquaires, la porosité des frontières. Ainsi, pour stopper cette hémorragie de la culture nationale, il y a lieu certainement que les autorités politiques au plus haut niveau de l'État, ministre chargé de la culture, celui chargé de la recherche, l'Assemblée nationale, le Premier ministre et même et surtout le Président de la République, et déjà, puissent lancer un appel à toutes les autorités politiques, administratives et coutumières et les populations nigériennes sur l'importance qu'il y a à sauvegarder le patrimoine. Que ces autorités fassent appliquer la loi, faire cesser les fouilles et les visites clandestines sur les sites, surtout accélérer conformément à la loi 97-022 du 30 juin 1997 relative à la protection et à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel national, la mise en place du Conseil national de protection, de conservation et de mise en valeur. Voilà un conseil qui tarde à venir, ça fait près d'une décennie qu'on est là, on est là-dessus, mais ça refuse de se mettre en place. Ces actions, une fois mises en œuvre, contribueront avec l'aide de tous à la sauvegarde de ce qui nous est tous commun, la République et ses biens en particulier dans sa dimension culturelle. Pour ce qui est de la gestion, nous pensons dans un premier temps qu'il faut, la gestion du patrimoine culturel donc est la responsabilité de tout un chacun. Donc nul n'a le droit de s'en approprier. Et pour cela, il faut développer des politiques d'éducation à travers des expositions, des publications de vulgarisation, des conférences, des animations sur l'archéologie. Sachant que les composantes du patrimoine, une fois détruites ou perdues, ne peuvent plus être reconstituées sinon en forme artificielle et fausse, toute stratégie de gestion n'a de sens sans reconstitution de base économique. Donc, les institutions chargées, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est national, c'est les ministères que je venais de citer, celui de l'enseignement supérieur, de la culture, de la communication, les archives nationales, le tourisme et l'artisanat, l'environnement et la défense. Voilà, ce sont les prérogatives. Celui de l'enseignement supérieur, à travers sa branche scientifique qui est l'Institut de recherche en sciences humaines, donc s'occupe naturellement de ce combat-là. Le ministère de la Culture garantit, quant à lui, les prérogatives de l'État dans ses interventions de conseil, de contrôle et d'expertise. Il est le fédérateur de toutes les orientations et initiatives en matière de conservation, restauration et défense du patrimoine. Il intervient au travers de ses différentes structures, tant services centraux et déconcentrés qu'établissements publics dans la gestion des divers domaines du patrimoine. Il accompagne par le biais de subventions l'action des collectivités territoriales. Sur le plan institutionnel, le ministère chargé de la recherche est la seule administration habilitée à délivrer les différentes autorisations en matière de recherche sur le patrimoine culturel, tandis que la gestion et la valorisation du patrimoine culturel incombent au ministère chargé de la culture. Donc, je passe. Là, les textes réglementaires, nous avons comme texte de base la loi 97-022 du 30 juin 1997, donc relative à la protection et à la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et son décret d'application. Et ensuite, nous avons la loi 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, qui est un texte fédérateur en matière de gestion de l'environnement. Elle intègre les principales dispositions des principaux textes particuliers régissant les différents secteurs de l'environnement. La loi 2006-26, c'est la loi minière, donc complétée par l'ordonnance cette loi, en son article 28 et son aliénat 1, stipule que toute la richesse archéologique, tout trésor, tous autres éléments jugés de valeur découverts dans le cadre de l'exécution des découvertes feront l'objet d'une déclaration immédiate de la part de la société d'exploitation à l'institution compétente de l'État. Donc, tous ces textes consacrent un chapitre à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Pour conclure, je dirais que le patrimoine culturel, notamment archéologique, constitue le témoignage essentiel sur les activités humaines du passé. Sa protection et sa gestion attentive sont donc indispensables pour permettre aux archéologues de l'étudier et de l'interpréter au nom des générations présentes et à venir. Et pour leur bénéfice, la protection de ce patrimoine est une obligation morale pour chaque être humain, mais c'est aussi une responsabilité publique collective. Cette responsabilité doit se traduire par une application efficace des textes en vigueur et par la garantie de fonds suffisants pour financer efficacement les programmes de conservation et de gestion du patrimoine archéologique. Sachant que le patrimoine archéologique est un héritage commun à l'humanité tout entière, la coopération internationale est donc essentielle pour énoncer et faire respecter les critères de gestion de ce patrimoine. Je vous remercie. Merci.
C'est juste.
Ah oui.
Mais oui, tu m'as fait.
Voilà, tu me donnes mon papier. Ok, merci bien, M. Idé Oumarou. Vous l'avez écouté, nous allons prendre peut-être deux questions. Ça fait combien de doigts déjà? 1, 2, 3. En fait, il y aura un débat général demain. Donc, vu le temps dont nous disposons, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Il y a eu un premier doigt, c'est madame derrière, ici. Oui,